Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, je vais pouvoir inviter Alexandre. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci à toi.
Tu es le CEO de Rana et vous faites des chaussettes de performance 100% made in France.
Exactement, on fait des chaussettes de performance avec un grip antidérapant ou sans. Les deux qu'on réunit sous le titre chaussettes de performance.
Alors, c'est une histoire un peu particulière, car vous êtes trois. Et il y a Steven et Cédric, qui sont deux anciens footballeurs, qui ont eu donc l'idée des chaussettes techniques. Puis, ils t'ont appelé pour rejoindre l'équipe.
En fait, c'est Steven qui a eu l'idée de créer Rana. Steven a un passé d'aspirant footballeur professionnel, féru d'équipement technique pour le sport, et notamment pour le football. Et donc, effectivement, il nous a contacté, Cédric et moi, pour se joindre à lui fin 2016 pour bosser sur le projet Rana.
Moi, je me posais justement la question, c'est, t'as pas eu peur de te lancer avec deux personnes dans une aventure entrepreneuriale comme ça, parce que...
Bah, j'ai toujours voulu me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et le fait de se lancer avec d'autres personnes, et notamment des personnes qui connaissent le marché, qui connaissent le métier d'un sportif, c'est rassurant. Et donc, ça incite à y aller à fond et à tout donner pour tout exploser, quoi.
Et tu les connaissais donc avant?
Oui, je les connaissais d'avant, Steven, depuis mes années lycée, et Cédric, que je voyais quand j'étais encore tout petit au Racing Club de Strasbourg, et que j'ai pu rencontrer deux, trois reprises quand il était joueur.
Et tu t'es dit, je me lance.
Ouais, j'ai cru au projet. On a mis un an à développer le produit, faire le business plan, l'étude de marché, et on s'est lancé pendant l'année 2018.
D'accord. Et il n'y a pas eu de bas en disant, ouais, peut-être qu'en fait ça va pas marcher, nous trois?
Non, on s'est jamais posé cette question-là. Il y a eu des petites divergences. Mais jamais de clash où on en est venu à se dire c'est pas possible. Au contraire.
Malgré que tu sois pas sportif de haut niveau, footballeur, je sais pas, voilà, peut-être que tu fais des sports, et ben ça crée quand même une synergie, ça va, tu te sens pas trop exclu?
Ouais, je me considère comme quelqu'un qui adore le sport, et ça a bien matché. Ça a bien matché autant avec Cédric qu'avec Steven au départ. Voilà, on est dans le même état d'esprit.
Comment vous avez décidé qui sera CEO?
C'est venu un peu tout seul. On a chacun nos compétences. Cédric, lui, a son énorme réseau dans le football, dans le sport en général. Steven, lui, est vraiment axé technique et produit. Et moi, quand on s'est lancé, j'étais un petit peu la voix de Rana, on va dire le pseudo-gestionnaire de la boîte, BizDev aussi. Mmh. Et puis voilà, depuis on a bien grandi, on a fait rentrer d'autres actionnaires, un autre associé, Thomas, qui gère les opérations, qui est COO chez nous. Et maintenant, on commence à déléguer certaines tâches dans certains domaines, quoi.
Comme quoi?
La communication, la production, puisqu'on a encore une dernière partie de la production chez nous, directement à Bischheim, à savoir la pose du grip antidérapant sur nos chaussettes. Le développement web, le graphisme.
Parce qu'avant, vous faisiez tout ça, alors?
Avant, on faisait tout ça tout seul, ouais, tout à fait.
Et demain, ça vous laisse du temps pour faire d'autres choses plus importantes?
Ouais, ça nous ouvre d'autres portes, d'autres opportunités. On a plus le temps aussi de rencontrer du monde. Ça nous permet de se développer un peu plus rapidement que lors des deux premières années, quoi.
Ouais, c'est ce qui... En fait, il faut tenir les deux premières années où tu dois faire beaucoup de travail, tu as des nombreux stages que tu ne sais pas faire.
Bah, c'est ça, tu ne sais pas tout faire. tu as des points où tu es plus à l'aise que d'autres, mais pourtant, il faut y aller. Steven n'est pas ingénieur textile, mais pourtant, il a réussi à développer une chaussette de performance. De mon côté, j'étais plus dans les médias et pas vraiment actionnaire. J'ai toujours travaillé tout seul dans les boîtes dans lesquelles j'ai évolué auparavant. Mais voilà, c'est quelque chose qui est venu et qui continue de venir parce que on apprend encore tous les jours, quoi.
Toi qui voulais être entrepreneur, c'est ce que tu m'as dit.
Ouais.
Est-ce que tu t'es dit que ça serait comme ça? C'était en accord avec ta vision ou en fait c'est plus dur que ce que tu pensais?
Je m'attendais à peu près à ce que je vis aujourd'hui, sans avoir la prétention de dire que j'ai un science infuse ou que je voyais Rana où on en est aujourd'hui.
Après, tu peux être juste lucide et pragmatique en disant « Ouais, je m'en doutais que ça se passerait comme ça. »
En tout cas, je me faisais cette image de l'entrepreneuriat.
Mmh.
Et donc, pour, là-dessus, je ne suis pas déçu. Je savais que, bah, que ça allait être un long fleuve pas tranquille. Et c'est le cas depuis 3 ans. Mais on apprend de jour en jour et donc on est plus à même à réagir à certaines situations aujourd'hui qu'il y a 3 ans parce qu'on a, engrangé de l'expérience et que voilà, on appréhende les problèmes différemment, on essaie de trouver rapidement des solutions et on est tous dans le même bateau aujourd'hui donc on gère ça ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est tout seul dans son coin. On gère ça tous ensemble. Et on essaye de prendre aussi les décisions de façon collégiale, quoi.
Et il y a eu des moments difficiles ?
Oui. Difficile. Ça dépend ce que tu appelles difficile, mais on a eu des moments de doute, forcément. Souvent pas au même moment. J'en ai eu à une période, Steven en a eu à une autre période. Je pense que voilà, c'est la vie des associés, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le niveau d'avancement de l'entreprise. Il y a toujours du doute, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des imprévus. Et il faut les gérer. Et voilà, c'est. On peut appeler ça des situations difficiles, mais ça reste qu'une entreprise et c'est pas une situation difficile personnellement, on va dire.
Et quand il y a un qui doute, vous le dites ou vous gardez ça de côté, les hommes et la communication?
Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de communiquer sur ces doutes, mais on le fait de plus en plus, communique de plus en plus aussi. C'était pas évident au début, mais aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé notre rythme et on se connaît. Tous beaucoup mieux qu'il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc, voilà. Et puis, ça se sent. Maintenant, quand quelqu'un a un doute, généralement, il n'y a même pas besoin d'aller en parler. L'équipe vient d'elle-même pour en savoir plus, pour essayer de régler le problème ou le doute en question, quoi.
Tu donnerais quoi comme conseil à une personne dans une start-up qui va devenir CEO?
Comme conseil, je lui conseillerais de ne pas se poser de questions, justement, d'y aller à fond, s'y croire en son idée, en son produit, en son service, d'y aller, de raconter son histoire, parce que c'est les histoires qui sont importantes pour, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Nous, au départ, on n'avait pas de clients, on avait quelques ambassadeurs au début, on s'est lancé pendant la Coupe du Monde, 2018, Donc voilà, on a une histoire déjà à raconter, on a construit le produit avec des athlètes amateurs, professionnels. Donc on avait des certitudes déjà, mais rien n'était fait.
Moi je vais savoir justement, voilà. Imagine-toi, il y a 3 ans, comment on fait pour lancer un prototype? Comment ça se passe? Avec qui tu testes?
Eh bien déjà, il faut bien sonder le marché. Donc il y a des produits qui te plaisent, d'autres qui te plaisent moins, des produits qui plaisent à d'autres et qui plaisent moins à d'autres. Donc identifier Les personnes qui peuvent prescrire de bons conseils. Et ensuite, il faut un peu d'imagination, il faut faire du dessin.
Mais t'as, est-ce que tu as pris les chaussettes du concurrent et tu as regardé
Ouais, bien sûr, on a tout pris.
Étalé.
On a forcément, quand tu fais une étude, tu te procures l'existant. Sur le marché, qui en plus le marché de la chaussette de performance est assez récent, donc il n'y a pas un historique énorme, donc on a fait le tour assez rapidement, et derrière on a fait notre propre design, on a trouvé une entreprise pour développer le produit, créer le prototype, puisque on ne sait pas tricoter des chaussettes, nous, hein. Pas encore en tout cas. Et donc on a trouvé un partenaire pour développer le produit. Au bout de quelques mois, voire un an, on a multiplié les prototypes et on a trouvé notre premier produit qu'on allait vendre, qu'on allait commercialiser au mois d'août 2018.
Vous avez fait combien de prototypes avant de trouver le bon ?
Une dizaine.
D'accord.
Une bonne dizaine, ouais.
Donc vous vous dessinez, vous dites ok, faut rajouter ça, etc. Vous
ouais,
allez
c'est
dans
ça.
Chez votre fournisseur. Là, vous avez quoi ? Une, deux, plusieurs, dix, vingt ?
Généralement, ça venait par un ou deux prototypes similaires, qui n'étaient pas très différents l'un de l'autre, mais qui avaient une spécificité en plus ou en moins. Et on voilà, par itération, comme ça, on en est venu à modifier le design, certaines zones techniques, à le tester aussi, puisque il faut utiliser le produit pour se rendre compte vraiment de sa pertinence en termes de performance. Et voilà, et puis au bout d'un moment aussi, il faut se lancer. On ne peut pas faire des prototypes là pendant 3-4 ans d'affilée. On n'est pas dans l'aérospatial ou un autre marché hyper technique. Et on s'est servi un peu de l'engouement autour du mondial au mois de juin-juillet 2018 pour lancer notre page Instagram premièrement. Et puis un mois ou deux après, on a lancé les chevaux avec le site internet qu'on a développé nous-mêmes.
Et c'est qui ? C'est Steven, Cédric qui testait, toi, les chaussettes ?
On l'a tous testé.
Ouais.
Et on l'a fait tester aussi par d'autres. Mais on est tous sportifs à différents niveaux. Donc il fallait le tester sur différents profils. Ça tombait bien puisque Cédric a un profil professionnel. Steven a un profil plus amateur. Et moi, un profil plus loisir. Ça, c'était cool, quoi.
Et parce que là, votre positionnement, c'est tous les footballeurs pour l'instant, ou vous ouvrez ?
On ouvre.
Oui.
On ouvre. Alors la chaussette, on l'a designée, on l'a développée pour le football dans un premier temps. Après, ça n'a pas empêché d'autres sportifs de s'équiper chez nous avec cette chaussette-là. Je pense notamment à des rugbyman, à des tennisman, à des joueurs de volley, de hand, et même des coureurs, des cyclistes, des golfeurs aussi. Nous, notre vocation, c'est de développer le produit adapté, le plus adapté sur chaque discipline. Donc là, on a un produit foot, et demain, on aura un produit running, on aura un produit rugby, on aura un produit tennis, sport indoor, basket, handball, volley, pour pouvoir s'adapter aux spécificités dans chaque discipline, aux prises d'appui, aux morphologies des athlètes, qui sont bien différentes en fonction des sports pratiqués.
Et comment vous avez commencé par des joueurs d'abord ? Pas par des clubs, tu m'as dit ?
Ouais, on a commencé à démarcher des joueurs de foot et des joueuses aussi, puisqu'on touche pas mal de joueuses professionnelles, et une partie de nos clients sont aussi des femmes. On a donc envoyé pas mal de produits test d'abord pour faire tester le produit, et puis si le produit satisfait, évidemment, on en envoie plus pour que les joueurs, les joueuses puissent les utiliser aux entraînements, aux matchs, compétitions. Et donc, pour nous, c'est un gage de qualité. C'est une crédibilité aussi qu'on se fait via ces ambassadeurs, qui nous permet d'aller toucher d'autres cibles, d'autres clients potentiels. et d'élargir notre champ d'action, quoi.
Plus facile d'avoir des joueurs que des clubs.
Bah forcément, c'est plus facile de s'adresser à une personne en particulier qu'à une institution, comme un club professionnel de foot. D'autant que y a des contrats en vigueur avec des équipementiers, donc c'est plus difficile de négocier une représentation des chaussettes par tous les joueurs d'un club en même temps. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher des ambassadeurs joueurs. Et puis rapidement, on a eu des grands joueurs qui nous ont contactés aussi pour essayer le produit, parce qu'on commençait à faire notre petit bonhomme de chemin. Et certains ont eu entendu parler de nous, et ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on équipe à peu près 200 athlètes professionnels, majoritairement dans le foot, mais dans d'autres sports également. Et puis, depuis peu, maintenant, on a le plaisir d'être partenaire officiel de clubs professionnels, au Toulouse Football Club, qui nous a fait confiance cette année et pour les 3 prochaines saisons. Premier partenariat officiel avec un club professionnel d'envergure. On a aussi un club féminin, le club de l'ASJ Soyaux, qui nous a fait confiance au mois de juin cette année.
Vous avez essayé de sortir un autre produit, les boxers?
On a essayé, on a fait un crowdfunding durant l'année 2019 à l'occasion de cette sortie du boxeur Run. R-UN de Rana, aussi fabriqué en France, super produit. Maintenant, voilà, on est peut-être allé un peu trop vite en besogne. On a développé un très bon produit, mais qui a eu du mal à sortir de nos stocks. Au début, en tout cas, ça faisait à peine un an qu'on avait sorti notre chaussette. Les gens commençaient à nous connaître via ces chaussettes. Et je pense qu'il y a eu aussi une incompréhension par rapport à la sortie de ce boxeur. C'est une expérience en plus. On a aussi l'ambition à moyen-long terme de sortir d'autres produits que des chaussettes. Là, on se concentre sur notre cœur de métier, les chaussettes. Mais on fera aussi des premières couches techniques, des sous-vêtements, à du t-shirt, à du legging, à du boxeur pour hommes, pour femmes et d'autres produits technique.
Ça a été un échec en 2019, mais je pense que le produit, vous pouvez le faire revenir.
Ouais, bien sûr. Et on compte sur notre développement pour ça. On compte sur notre visibilité, sur notre crédibilité. On apprend, comme je te l'ai dit, et on grandit aussi.
Vous êtes une start-up, mais est-ce que vous avez fait des levées de fonds?
On a travaillé l'année dernière sur une levée de fonds, en 2020. Est arrivé le Covid assez rapidement. Bon. Ça nous a permis au moins de nous concentrer là-dessus. Et on a effectivement levé des fonds en décembre 2020. Voilà, donc ça nous permet aujourd'hui de pouvoir développer d'autres produits, de pouvoir mieux communiquer avec plus de puissance aussi. Ça nous permet de financer des stocks plus importants, de recruter. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour nous.
Parce que vous avez commencé en fonds propres ?
On a commencé avec un mini prêt. Voilà, c'est un produit qui n'est pas si cher à produire, même si on le fait en France et qui nous coûte beaucoup, beaucoup plus cher que si on le faisait faire dans d'autres pays, et notamment, je pense, à l'Asie. C'est un produit qui reste accessible, on va dire, à la production. On a pris ce prêt pour financer une première commande. On a eu des dépenses, notamment, je pense, à notre premier clip vidéo, qui nous a coûté assez cher, mine de rien. Il y a eu quelques jours de tournage sur Strasbourg. Notre machine pour poser le grip, notamment.
Mais ça, c'est vous qui le faisiez à côté, en fait.
Ouais, on le fait pas à côté, on le fait chez nous, quoi.
Oui, genre...
Je peux te montrer après.
Mais c'est qui le fait, alors?
Eh ben, jusqu'à l'année dernière, on le faisait nous-mêmes. On se relayait.
D'accord.
Voilà. On se relayait c'était comme pour les expéditions de colis, de commandes. On se relayait aussi pour aller à la poste tous les mois, ça changeait, quoi.
Maintenant, vous avez pris des gens pour ça?
Et là, on a pris quelqu'un maintenant qui grippe nos chaussettes, qui les met sous packaging, qui les emballe dans des enveloppes, qui imprime les étiquettes et qui les dépose au centre de tri de la poste.
Ah, parce que ça, c'est une perte de temps.
Ah bah ouais, c'est clair. Surtout quand on doit déposer le courrier avant 16h pour qu'il parte dans la journée, qu'il y a un peu de queue au guichet. On perd du temps. c'est clair. Mais bon, on n'avait que notre temps à nous, donc on le faisait, et on le faisait avec plaisir, parce que le fait d'expédier notre production, le produit sur lequel on a travaillé, et de voir que au fur et à mesure, on en envoyait de plus en plus, même si ça nous prenait un peu plus de temps, on le faisait avec plaisir, quoi.
Comment vous avez fait pour trouver un fournisseur de... et non, un fabricant, pardon, de chaussettes made in France?
Eh bien, on a fait les salons. On a fait les salons du Made in France. Il y en a plusieurs chaque année. Ensuite, c'est une histoire de feeling, de discussion, de négociation aussi, puisque il faut des volumes minimum pour commencer à travailler avec un fabricant. Donc voilà, c'est aussi une relation qui s'installe. Et derrière, la fabrication d'un prototype, d'une mini-série, et ensuite d'une première série, quoi.
Et quand la... Quand le prototype était bon, vous avez trouvé le fournisseur. Vous avez fait quoi, des précommandes? Parce qu'il en faut un certain volume. Donc on pas de clients.
On a fait des commandes avant d'avoir des clients.
Voilà, pas le choix.
Bah ouais. Donc on a dû avancer l'argent, la trésor qu'on avait, puisqu'on a fait ce prêt pour ça aussi. Mais c'est clair que c'est un risque. Forcément, tu investis de l'argent... pour te stocker en produit. Rien ne te dit que tu vas pouvoir le vendre derrière. Mais bon, on avait confiance en notre produit. On savait qu'on avait déjà des potentiels clients, des intéressés. Donc on s'est lancé et puis on a bien fait, quoi.
Oui, parce que vous répondiez à une cible. Parce que tu m'avais dit quoi? Que les autres marques, au début, elles ne s'intéressaient pas vraiment à... Enfin, pas vos concurrents, mais il y a 10 ans.
Ouais, disons qu'il y a 10 ans, le marché il naissait seulement. Donc, on peut parler des grandes marques, des grandes marques de sport, que je ne vais pas citer, on les connaît tous, qui faisaient déjà des produits, des chaussettes de sport. Mais on est allé plus loin que ça. On est allé plus loin que ça, tant dans le choix des matières... que dans l'innovation avec ce grip antidérapant, dans les zones techniques aussi, on a voulu aller plus loin que juste sortir une chaussette de sport, quoi.
Donc c'était vraiment un pourquoi qu'elle vous répondait et...
On savait qu'on répondait à un besoin, ouais. à une attente aussi, ouais. Attente en termes de performance. On voit aujourd'hui que les chaussures de foot à crampons n'ont plus rien à voir avec les chaussures d'il y a 10, 20, 30 ans. Elles sont beaucoup plus légères, plus resserrées, donc optimisées pour la performance en quelque sorte. Bah, c'est logique en fait. Quel est le produit qui est en contact en premier avec la peau? C'est la chaussette, c'est pas la chaussure. Et donc... Il faut aussi adapter la chaussette au même niveau que la chaussure, voire peut-être un peu plus de technicité que ce qui était proposé jusqu'alors, quoi.
Tes ambassadeurs, quand ils les ont essayés, est-ce qu'ils se sont dit « Ah ouais, il y a quand même une différence, c'est trop cool ?»
Ouais. Ouais, forcément. Sinon, ils utiliseraient le produit classique, mais c'est aussi pour ça que ces joueurs-là ont commencé dans les années 2010 à couper leurs chaussettes, c'est parce que...
Couper leurs chaussettes ?
Ouais, en fait, les joueurs ont commencé à couper leurs chaussettes au niveau des chevilles, donc pour laisser la partie visible des chaussettes de foot qui vont du genou jusqu'au pied, cette partie, ils étaient obligés de la laisser visible. Par contre, la partie dans la chaussure, ils n'en étaient pas satisfaits. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à couper et à mettre des produits alternatifs dans la chaussure. Donc ça pouvait être des chaussettes de running, ça pouvait être des chaussettes de tennis ou d'autres types de chaussettes, puisqu'il n'y avait pas encore de chaussettes de performance designées pour le foot.
Parce qu'avant, leur chaussette, c'était la grande chaussette avec le mollet, tout?
Ouais.
Ah d'accord.
C'est toujours le cas, hein.
C'est toujours le cas. Oui, mais maintenant, ils ont la petite et après, ils ont le mollet.
Il y a aussi ça. Mais il y en a toujours qui n'utilisent qu'une chaussette qui va du genou jusqu'aux orteils. Il y en a toujours qui utilisent la chaussette classique parce que ça leur convient. En tout cas, ils n'ont peut-être pas envie de changer. Il y a des rituels aussi dans le foot, dans le sport, qu'il faut respecter.
C'est peut-être pour ça que c'est dur d'imposer à un club.
C'est pour ça que de toute manière, avant de... contractualiser avec un club, il y a une phase de test qui est primordiale, qui est obligatoire pour avoir un retour de l'équipe dans son ensemble sur les bénéfices de ce produit-là. Et quand je dis l'équipe dans son ensemble, c'est aussi le staff technique, le kiné, le médecin, l'entraîneur adjoint. Voilà.
Oui, tout le monde doit être d'accord.
Ouais.
Alors aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous avez lancé un nouveau produit
Alors ouais, aujourd'hui on est un vrai tournant dans l'histoire de la marque. Et je pense notamment, en disant ça, à nos clubs partenaires, parce qu'ils nous ont fait grandir beaucoup plus vite que prévu. On fait évoluer pas mal de choses en ce moment. Vous allez découvrir, ou vous avez pu découvrir déjà, qu'on fait évoluer notre logo. Tout le branding de la marque a été remis à plat. Voilà, pour parler à plus de monde, faire confiance aussi à des vrais artistes en la matière, parce que on avait tout fait nous-mêmes. Je pense à l'hexagone du logo, le ballon en dessous du R, qui faisait très bien le job, qui était pas forcément l'idée qu'on se faisait d'une grande marque. On fait évoluer le logo, les supports de communication évidemment, le site. Qui en découle du coup tous les visuels, les typographies évoluent aussi avec ce nouveau branding. Cela amorce aussi l'arrivée du nouveau produit, notre Air One Grip 2.0, redesigné avec un grip optimisé. Donc on a travaillé sur un grip encore plus efficace qui va maintenant jusqu'au tendon d'Achille, pardon, avec un produit encore plus abouti qui va donner le ton du coup aux futures sorties produits sur 2021, 2022 et plus loin que ça, quoi.
Donc il va être disponible
Qui sera disponible très prochainement, dans un premier temps en précommande, et puis ensuite il sera présent, ce produit, sur le site.
Jusqu'au prochain ?
Mais jusqu'au prochain produit qui sortira, j'espère, prochainement. On travaille dessus en ce moment. Donc,
2022 ?
Peut-être même avant.
D'accord.
À voir.
Ok.
Et je voulais te dire un truc, du coup, pour finir sur le logo. On change, du coup, on arrête, on supprime l'hexagone. Et on révolutionne un petit peu notre R de Rana. Voilà.
Moi, je le vois.
Voilà, tu le vois. Donc, c'est notre nouvelle ère.
Quel bon jeu de mots. Mais en fait, ouais. Mais je pense que quand on diffusera le podcast, les gens auront vu.
Je pense.
Le logo.
Je pense aussi.
Et donc, vous avez complètement enlevé l'idée du fanion pour faire un logo typographique.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est dans l'air du temps.
C'est dans l'air du temps.
Ça faisait un jeu de mots, ça, ou...
Bah, ça... On poursuit, quoi, avec
le... le R.
L'air.
En fait, ouais. C'est... Les chaussettes, tu voles aussi avec. Non,
En tout cas, tu vas plus vite, donc peut-être que tu peux décoller.
Je voulais savoir si tu étais impliqué dans le monde start-up strasbourgeois ou pas trop.
Ouais, on est impliqué. On a été incubé chez Semia fin 2019. Après une incubation collective qui était super enrichissante, qui a duré 3 mois. Donc on est amené à rencontrer pas mal de start-up de l'écosystème. Et depuis début 2021, on est accéléré par l'accélérateur de la région Grand Est, Scalinov, voilà, qui nous aide sur énormément de points, qui nous fait avancer sur tous les domaines d'activité de notre boîte, les RH, le développement produit, la mise sur le marché d'un produit, la com, le market, le pilotage de la trésorerie.
Alors moi, je voulais savoir quel est ton plus grand défaut.
Je suis impatient, donc ça peut être un gros défaut. Je peux me planter parce que je suis trop impatient, donc faire des erreurs, prendre des décisions peut-être trop vite aussi. Mais en même temps, je me dis que sans cette impatience, je serais peut-être pas allé à fond dès le départ, comme je l'ai fait, et comme on l'a fait avec Steven et Cédric, et maintenant avec Thomas et nos actionnaires. Et notre équipe, tout simplement. C'est l'ADN un peu de Rana aussi. On s'éparpille pas mal. On a plein d'idées. Donc parfois, on s'égare. On fait les choses un peu trop vite. On a la tête dans le guidon. C'est une valeur intéressante, mine de rien.
De toute façon, les startups, il faut aller vite.
En tout cas, il faut essayer.
Vite et doucement.
Je parlais du Covid de l'année dernière. C'était très dur moralement parce que les compétitions sportives, il n'y en avait pas, tout simplement, au niveau amateur. Il n'y avait plus personne dans les stades, les gens étaient chez eux. Donc, point de vue business, c'était très dur. Mais ça nous a permis aussi d'évoluer, de prendre le temps, ce qu'on n'avait peut-être pas fait auparavant. Ça nous a permis d'appeler nos clients, de faire une enquête, de créer un questionnaire de satisfaction. Et voilà, de prendre le temps de se poser, de faire une rétrospective sur les succès, sur les échecs, de voir l'avenir un peu plus sereinement aussi.
Est-ce que ça vous a permis de penser aux nouveaux produits que vous allez sortir ?
Complètement. Mmh. On a pensé le plan. Le rétro-planning, en fait. On a commencé à travailler sur ces nouveaux produits que cette année, après cette levée de fonds. Mais on avait déjà le plan en tête, mis sur le papier, dans notre drive, pour la mise en action.
Qu'est-ce que tu détestes faire ?
On déteste, parce que je parle aussi pour mes assos, on n'aime pas l'admin, l'administratif. Donc là aussi, on se le partage. On a chacun une partie. Steven, c'est plutôt la compta. Moi, c'est tout ce qui est prêt, levée de fonds notamment, avocat. Et voilà, on arrive du coup à passer le moins de temps possible sur ces tâches-là, qui sont tout de même obligatoires, parce qu'il faut faire les choses dans les règles. Et que si on ne le fait pas, on se perd très rapidement, on peut couler à cause d'oubli de ce type-là. Quoi.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager ?
J'ai une anecdote, honteuse non, marrante je sais pas, mais une anecdote un peu sympa. Quand on a lancé la marque, on a fait une tournée avec Steven, on était dans le sud de la France, on a fait Toulouse, Montpellier, Nice, Cannes, pour pouvoir voir un maximum de joueurs, de clubs en un minimum de temps. Et donc pour se partager un peu la carte, moi je suis parti à Toulouse et on s'est rejoint à Montpellier. J'ai aussi des amis à Toulouse, donc je suis sorti à Toulouse en boîte de nuit et je suis tombé en fait sur ces premiers ambassadeurs, en fait, en tout cas certains. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé à la table de ces joueurs-là. Je leur ai exposé le projet Rana, qui était vraiment au tout début. C'était 2-3 semaines après le lancement du compte Instagram. Et certains des joueurs ont été cool, d'autres un peu moins, voilà, en me disant qu'ils n'avaient pas besoin de ce type de produit. Et ben on se rend compte en fait que 3 ans après, les joueurs qui m'avaient gentiment fermé la porte, en tout cas certains, et ben sont devenus ambassadeurs de la marque. Je pense même qu'ils ont oublié.
J'allais dire, est-ce qu'ils ont oublié ou pas ?
Ouais, je pense qu'il y en a certains qui ont oublié cet épisode-là. Mais c'est cool, je trouve ça sympa que d'eux-mêmes ils soient revenus vers nous pour pouvoir être équipés et même être sponsorisés par Rana.
Ah, t'en sponsorises aussi ?
Ouais, on en sponsorise depuis peu de temps, mais ça vient. Et puis, pour la petite histoire, ça s'est fait à Toulouse et c'est la première ville dans laquelle je suis allé démarcher. Et aujourd'hui, c'est le premier club, notre premier club partenaire. On est fournisseur technique officiel du club. On va dire qu'on a bouclé la boucle avec Toulouse, quoi.
Maintenant, le rugby à Toulouse ?
Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi
pas ? Un gros club.
Ouais, ils ont un des plus gros clubs du monde en rugby. Pourquoi pas le Stade Toulousain, pourquoi pas d'autres clubs du top 14, de Pro D2. En tout cas, on a une trentaine de joueurs aujourd'hui qui utilisent régulièrement les produits. Et donc, y a des ouvertures, il y a des opportunités qui s'offrent à nous en ce moment, à nous de les concrétiser et d'être dans une relation de confiance avec, avec les dirigeants, avec les entraîneurs et les joueurs.
J'ai l'impression que c'est vraiment du bouche à oreille.
Beaucoup, beaucoup. Mais c'est un petit monde, hein, le sport, et notamment le foot, il y a beaucoup d'argent. Mais au final, il y a 40 clubs professionnels en France. Donc, ça fait pas énormément de monde. Et on a vite fait le tour, et donc ça parle. Hein, ça parle entre joueurs, entre dirigeants. Entre institutionnels et voilà et ensuite il y a toute la partie amateur qui est notre notre cœur de cible c'est
parce que c'est le sport le plus joué de France donc
c'est le sport le plus populaire plus avec le plus de licenciés ouais tout à fait
donc ça reste un grand marché
c'est un grand marché tout à fait
et après c'est quoi c'est le tennis il me semble.
Je crois que c'est le deuxième sport le plus représenté au niveau des licenciés, le tennis, ouais. Mais bon, je crois que c'est quand même divisé par deux par rapport, au, par rapport au foot.
Et l'Europe ?
Bien sûr, on va inonder l'Europe.
Impeccable, plein de chaussettes partout.
Non, non, c'est... bien sûr, c'est...
Bon, peut-être pas tout
on
suite,
touche déjà des
ans.
Joueurs européens en Première Ligue, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Donc dans les grands championnats européens. Après, c'est une autre paire de manches de commercialiser un produit. Il faut traduire nos supports de communication, notre site, aujourd'hui qui est traduit en espagnol et en anglais. Mais demain, et voilà, y a pas de frontières en fait. Le foot, évidemment, est plus présent et plus... est plus populaire en Europe que... qu'en Amérique, par exemple, encore qu'en Amérique du Sud, c'est le sport le plus populaire. Donc voilà, il n'y a, a pas vraiment de frontières. Aujourd'hui, on expédie des colis aux États-Unis, en Bulgarie, à La Réunion. Voilà, donc il n'y a pas de limite.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est le conseil que j'ai donné, en fait. C'est d'y aller tête baissée. Parfois, il faut pas se retourner. Quand on a une idée ou un projet et qu'on y croit, faut pas écouter. Faut y aller, faut s'écouter. Faut pas écouter trop ce qui se passe autour. Faut se mettre un peu des œillères, je pense, au début. Évidemment, pas se couper du monde, mais se mettre un peu des œillères quant à la direction qu'on veut prendre. Et puis après, on avance plus facilement avec... en étant accompagné, en étant conseillé. Nous, on a toujours eu des personnes qui aussi gravitaient autour de la marque, autour de la boîte, qui nous donnaient des conseils, qui nous donnent toujours des conseils, qu'on suit ou pas. Mais en tout cas, ça nous donne de la matière pour pouvoir réfléchir.
Et selon toi, qui est-ce que je pourrais interviewer ?
Il y a du monde à interviewer. Hein,
Personne accessible, ouverte.
Personne accessible, ouverte. Alors je pense à avec des à des gens avec, avec lesquels je bosse forcément. Je pense notamment à notre fabricant de chaussettes qui est situé à 40 km de Strasbourg, Dominique Malfait qui est PDG de Labonal. Je pense à notre distributeur BDE Sport. Qui est basé à Elkirch, voilà, Antoine Chouissac. Je pense à des sportifs. On a une super relation avec Dimitri Liénard, qui a été un des premiers ambassadeurs de la marque, et qui, voilà, qui en plus de, d'aimer le produit, joue le jeu, nous donne des coups de pouce quand on fait appel à lui. Donc voilà, c'est quelqu'un de, d'hyper sympa et accessible. Mais ça, tous les Alsaciens le savent. Je pense à Karim Matmour, avec qui j'ai évolué. On a évolué avec Steven pendant la, l'incubation collective, la starter class chez Semia. qui développe, qui a un projet.
Qui va sortir?
Qui a un projet qui va faire du bruit et qui va sortir prochainement, j'en dis pas plus. Et puis il y a d'autres personnes, je pourrais t'en parler,
mettre sur la
te donner
piste.
Te donner quelques voix, ouais.
D'accord. Ben merci Alexandre d'avoir participé à mon podcast.
Et ben merci à toi de m'avoir sollicité et à très vite, j'espère.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.